des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Eh bien, Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et donc, on est ensemble pendant une heure. Et on va parler de cannabis, de chambre, de ce qui se passe dans le monde et en France. Ce qui se passe partout, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. On va vous parler de communiqués de presse par rapport à la fleur qui va être interdite, on en parlera, reparlera brièvement, on parlera de Darmanin et de ses contrôles cannabis. On verra un beau petit texte dans Libération de Luc Levaillon sur Pour un État dealer. Et puis évidemment on parlera de l'Allemagne, hein, parce que depuis le 1er avril, nos amis allemands, s'ils sont mis à la légalisation... Et d'ailleurs, il y avait une petite brève dans le canard que j'ai bien aimé, le petit dessin, où il y avait notre fils prend goût aux azotides, il veut se mettre à l'allemand. Voilà, bref. Ensuite, on ira voir dans ce qui se passe un peu partout. Ah si, il y a le Monde aussi qui en profite pour faire la légalisation dans le monde, de faire un panel de ce qui se passe. Depuis 2013 avec l'Uruguay, le Canada en 2018. Et ils arrivent avec l'Allemagne en 5e position. C'est là qu'on va chercher le 3 et le 4. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. Parce que la Californie, c'est un État, mais ce n'est pas un pays.
Ben non.
Voilà. Bon, après, on ira voir ce qui se passe à Zurich avec les premiers résultats des études. Des trucs intéressants. On ira voir aussi New York. Encore des problème d'argusie juridique pour la légalisation à New York. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Australie, qui nous fait des études sur la conduite automobile, où il montrerait que le cannabis n'est pas si dangereux que ça.
Les utilisateurs de cannabis médical.
Oui, pour les oui, mais ouais. C'est vrai d'ailleurs, si je me souviens, l'enquête SAM qu'ils avaient fait en France, il y a déjà pas mal d'années.
Oui.
D'ailleurs, si je me souviens bien, c'était l'éternel ministre de la Culture, Jacques Lang, qui a fait un tout petit tour à un moment au médical ou je sais pas quoi. C'est lui qui avait lancé cette étude. Et au début, parce que ça a été une étude qui a été faite sur tous les produits interdits, et il voulait y rajouter, donc il y avait le cannabis, les opiacés, la méthamphétamine et la cocaïne. Et il voulait y rajouter tous les médicaments. Et ça a été retoqué, ça. Donc ils avaient fait une étude que là-dessus. Et sur l'alcool, évidemment. Ouais, j'oubliais. Et si je me souviens de cette étude-là, elle avait bien montré que le cannabis n'était pas plus dangereux que quand on était un jeune conducteur, par exemple. Et là, l'étude australienne, mais on y reviendra tout à l'heure, semble montrer que c'est beaucoup moins. Et puis d'ailleurs, tant que j'y pense, et une chose qui est très vraie, c'est qu'alcool plus cannabis, ça c'est très mauvais, et je crois que, ils n'en parlent pas dans cette étude, mais en tout cas, l'étude SAM que je citais l'avait déjà montré. Et c'était une des choses qui est dans le film de Kassovitz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on en a parlé la semaine dernière, il fallait le regarder le 2 avril, on peut le regarder en replay évidemment. Voilà, bon bref, on va revenir là-dessus. Comme on reviendra à la fin sur le terpène, le dilimonène. Des histoires de fou, tout ça. Voilà. Donc 2 avril, donc 1er avril, l'Allemagne a légalisé le cannabis. Ça y est, les Allemands peuvent fumer un joint. Donc ils ont fêté ça comme il se doit. À minuit, ils se sont tous allumés leurs joints sur les places principales. Ça a fait les grands titres. C'est quand même un grand pays, mine de rien. Et donc, ça va peut-être changer la donne. Et donc, il y avait Kassovitz qui avait fait un film moyennement intéressant ou pas trop mal. On se demande pourquoi lui et pas d'autres, quelle légitimité il a, mais voilà.
C'est pas très compliqué.
Bon, après, c'est un bon cinéaste, il est connu, ça permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir les bouches.
Par rapport à ce sujet, c'est quand même quelqu'un qui a toujours assumé sa consommation. Voilà. Après, il a ses entrées, il a ses réseaux dans le monde du showbiz et ça lui donne la possibilité de faire ça. C'est tout.
Il a assumé avoir consommé un moment dans sa vie. Hein.
Il l'a dit.
Mais il se revendique pas fumeur actuellement, il me semble.
Ah si, il l'a dit en direct.
Ah, je l'ai pas vu celui-là.
Il a dit, moi, je suis consommateur. Mais voilà, d'accord. Donc ça fait partie de ces gens qui ont un avis quand même sur la question et depuis très longtemps. Toi, tu l'avais peut-être pas vu parce que tu n'utilises pas du tout Facebook, mais il y a quelques années, il avait répondu à une interview qui avait été reprise sur la page Facebook du cirque Lyon, etc., et puis qui avait fait un peu le tour de France. Mais c'était pas le seul qui avait donné son avis, et d'autres acteurs également. Moi, je me rappelle plus leur nom. Pas forcément le nom de tous ces acteurs, mais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui traite aussi un peu du sujet dans la haine.
Oui.
Voilà, dans son film de 95. Alors, par rapport à son documentaire qui est plutôt pas mal, quoi. Hein, plutôt même, je dirais bien, voire très bien, parce qu'on est.
Un truc qui m'a agacé, c'est que.
Attends, laisse-moi finir. Ouais. Juste, on voit tellement peu de choses dans les médias, les grands médias mainstream, que ce soit la 5 ou d'autres chaînes. Je parle vraiment de la télévision, parce que c'est vraiment un sujet qui a été exclu de la télévision, hormis pour en parler aux infos. Non, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Après, il y a des manques, malheureusement. Bon, comme tu me disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été fait il y a au moins un an. Ce que je trouve qui manque vraiment, c'est quand il traite de la Hollande, il parle pas de l'expérimentation qui a été lancée l'année dernière. Hein. Alors effectivement, si le truc a été bouclé l'année dernière, un peu à la même époque, malheureusement, effectivement, ils ont pas pu avoir connaissance de l'expérimentation, mais ça allait vraiment dans le sens de ce qu'il expliquait et de l'impact qu'ont les mafias aux Pays-Bas et que c'est aussi pour ça qu'il lance cette expérimentation, c'est pour sortir de cette zone grise et de mettre en place un système clair. Alors ça figure pas dans le documentaire, c'est un peu dommage. Ce qui est bien, c'est qu'il ait pu quand même faire un peu le tour de plein de pays et qu'il ait pu finir par le Canada et avoir cette interview avec Trudeau.
Oui, qui était excellente.
Alors là, qui était vraiment très très bien. Donc, globalement, c'est plutôt bien. Après, ce qui est un peu pénible, ce qu'on se disait un peu avant l'émission, c'est que on dirait qu'il y a eu aucun mouvement social de lutte contre la prohibition en France, notamment, parce que nous, on n'existe pas du tout. Les gens qui regardent ça aujourd'hui, forcément, dans ce docu, il n'y a absolument pas d'infos par rapport au cirque, quoi. Ou aucun activiste français ou même d'ailleurs, hein, d'ailleurs on voit pas au Canada, on voit pas de d'acteurs du Bloc Pot par exemple, on voit pas alors au Maroc finalement les producteurs qui rencontrent sont des gars un peu militants en fait.
Ouais.
C'est les seuls qu'on peut voir, voilà, qui seraient un peu dans cette mais on parle pas même des politiciens américains qui ont porté cette idée à une époque. On parle pas de normal aux États-Unis. Ça c'est vraiment. Et puis il est pas allé en Uruguay. L'Uruguay manque aussi dans son docu.
Tout à fait. Voilà.
Et Malte, il n'en parle pas. Ou très peu.
Luxembourg
non plus. Voilà, bon.
Mais c'est pareil, c'est trop récent, je pense, par rapport au moment où il a fait son film. Moi, par contre, ce que j'ai regretté, c'est qu'à un moment, il parle de drogue, mais on a l'impression qu'un produit, s'il est illégal, c'est une drogue. S'il est légal, c'est plus une drogue.
Ouh, oui.
C'est à un moment, il dit une phrase et c'est absurde, quoi. C'est voilà, une drogue est une drogue, qu'elle soit légale ou qu'elle ne l'est pas. Ce qui est dangereux, c'est un avis abusif, quoi, quel que soit du produit.
Oui, oui, bien sûr.
Mais bon, sagesse, elle est là.
C'est un peu, alors c'est un peu le problème. Je dirais aujourd'hui, mais c'est pas qu'en France hein, d'ailleurs. Il faut que ce soit une personnalité du monde du showbiz qui s'empare d'un sujet et puis que, enfin, qui s'empare, qui se décide à vouloir traiter du sujet parce qu'il se sent concerné. Et bon, alors là effectivement toutes les portes s'ouvrent et il a cette possibilité là. Mais il y a quand même pas mal d'experts. Alors bon, les experts on les avait sur le plateau après, pendant le débat. Il y avait Marie-Geoffrey Roustil par exemple de l'OFDT qui était présente et qui a pu dire des choses quand même très intéressantes. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas que ce documentaire. Il y a 10 petits épisodes aussi qu'on peut regarder, qui traitent du sujet, que j'ai pas eu le temps de voir. Hein. Pas tous, en tout cas. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Donc il faut tout regarder. Donc non, c'est quand même
pas mal. Il faut approfondir. Oui, c'est intéressant, au moins c'est... Ouais. C'est pas a priori contre, comme beaucoup de choses qu'on a vues jusqu'à maintenant.
Ah ben c'est quand même très différent de ce qu'on a pu justement voir, très très différent même, hein. Même dans le ton, dans ce qu'on peut, non, même dans ce qu'il donne à voir, parce que quand même ce qui montre au Canada, où il visite l'usine là où on voit des plateaux entiers remplis qui poussent, alors lui il est émerveillé par ça, on voit bien, et ça c'est quand même quelque chose qu'on voit rarement, voire jamais. Voilà.
Bon, pour finir, on va dériver un tout petit peu sur une carte des gangs. C'est une petite brève que j'ai trouvée. Donc, Europol a cartographié les 621 réseaux criminels les plus dangereux du continent européen. Donc, ils ont regardé le fonctionnement des gangs concentrés sur le narcotrafic et dont certains des chefs donnent des chefs depuis Dubaï ou l'Amérique du Sud. Voilà, donc, et la majorité de ces gangs donc, se concentrent sur le trafic des drogues avec des opérations souvent localisées en Belgique, Allemagne, Italie, Espagne ainsi qu'aux Pays-Bas. Environ 86% de ces groupes criminels utilisent leur structure commerciale légale dans des secteurs dans la construction, l'immobilier, l'hôtellerie ou la logistique. Voilà, c'était juste une brève.
Et t'as trouvé ça où ?
Je crois que c'était dans un gratuit, donc c'est dans 20 minutes, c'est une dépêche AFP. Donc.
D'accord. Bien, merci.
c'est juste pour l'état du crime organisé. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas ? Oui, il existe, ça c'est sûr. Avec les milliards qu'on lui donne avec la prohibition, ben, ils sont puissants.
D'accord, ok. Alors, on commence par ce communiqué de presse, ça te va ? Ou tu voulais mettre de la musique tout de suite ? C'était ça ?
Ouais, le communiqué de presse.
Bon. Ok. Donc voilà, c'est un communiqué interassociatif dans lequel on retrouve Principe Actif, le syndicat polynésien du chanvre également, Apaisé, Tahiti Herb Culture et je vois pas ce qui est écrit sur l'autre, le dernier logo. Peu importe. Voilà, alors.
C'est un combat de malades.
Ah, un combat de. Oh. C'est écrit voilà, trop petit pour mes lunettes.
C'est un communiqué de presse du 27 mars. C'est l'arrêt des fleurs de cannabis, une décision déplorable du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le titre.
Ouais.
Donc, ils disent qu'ils sont contents qu'il y ait une expérimentation
sur l'usage. Mais tu veux pas qu'on le lise, en fait ? Ce serait bien qu'on le lise.
On va faire court, non ?
Bah, on va le lire, parce que je me suis engagé auprès d'un des rédacteurs à le lire à l'antenne. Donc, puis ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, nous avons accueilli très favorablement l'expérimentation pour l'usage du cannabis à visée médicale, dont nous avons intégré le comité de pilotage dès sa création, puis le comité de suivi, car elle constitue une avancée majeure pour la reconnaissance légale de cet usage. Nous apprenons avec consternation que les fleurs de cannabis, qui font partie intégrante de l'expérimentation, ne seront plus disponibles comme traitement en raison de leur exclusion du dernier projet de loi sur le financement de la sécurité sociale et d'une intervention du ministère de l'Intérieur auprès du ministère de la Santé. Des questions s'imposent. Pourquoi le ministère de l'Intérieur a demandé ce retrait ? De quelle légitimité se prévaut-il pour intervenir et faire pression sur un sujet qui ne concerne que le ministère de la Santé ? Et pourquoi ce dernier a-t-il accepté ? L'expérimentation a pourtant confirmé l'efficacité du traitement par inhalation, vaporisation, des fleurs de cannabis du fait de son action rapide sans aucune contre-indication constatée. Une centaine de participants, dont un certain nombre de patients en soins palliatifs de fin de vie, vont par conséquent se retrouver brutalement privés d'un traitement aussi bénéfique que crucial. et être contraints de reprendre leurs médications précédentes moins efficaces ou de se tourner vers le marché clandestin ou l'autoproduction de cannabis. C'est aussi des milliers de patients et patientes en attente de ce traitement qui ne pourront pas en bénéficier. Cette décision du ministère de l'Intérieur isole encore un peu plus la France, alors que de nombreux pays en Europe et dans le monde ont fait le choix d'autoriser aux patients l'accès aux sommités fleuries. En matière de santé, le gouvernement semble préférer l'idéologie obscurantiste et répressive aux connaissances scientifiques établies. Les patients et leurs familles apprécieront. Voilà. Communiqué de presse qui succède à d'autres communiqués, notamment celui du Cercle là, qui était un peu du même acabit il y a un peu quelques semaines. Voilà, donc c'est bien de rappeler quand même que globalement on n'est pas d'accord avec cette décision et qu'il n'y a pas que le Cirque qui n'est pas d'accord, il y a aussi d'autres organisations, d'autres collectifs qui le déplorent. Voilà.
Et beaucoup de gens qui travaillent pour la légalisation du cannabis. Voilà,
et on a bien sûr une pensée pour les patients et les gens qui souffrent, parce qu'il s'agit d'eux quand même, d'eux et d'elles. Voilà, c'est dramatique.
S'écouter Hawkwind Space.
Ouais, j'espère qu'après ce morceau, on a encore des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent.
On a écouté Space de Hawkwind. Ah, oh, ça va. Bon, sinon, merci à Clermont. Salut à Clermont. Merci à notre main.
D'accord. Ok, allez. On va parler de pas mal de choses. On va commencer avec. Avec cette déclaration de Darmanin, alors on va pas y passer des heures, surtout que on va traiter de un peu du même sujet de manière un peu transversale. Mais voilà, c'est Darmanin qui, j'ai l'impression, hein, suite à la décision, enfin, c'est pas suite à la décision de la légalisation de l'Allemagne, mais en tout cas, on a l'impression qu'il se retrouve un peu sous pression vu ce qui se passe en Allemagne. Alors là, il a décidé de marquer le coup et de faire de la surenchère. Et donc là, maintenant, il s'agirait, selon ce monsieur, donc qui est notre ministre de l'Intérieur, de mettre en place des... Enfin, c'est de la com, hein. On est bien d'accord, rien n'est signé. Mais en tout cas, il nous parle d'élargir les tests de dépistage des drogues, maintenant, donc plus au volant, mais partout, c'est-à-dire y compris sur la voie publique. pour choper du consommateur, du chiteux, quoi, tout simplement, le plus possible.
Stigmatiser, ouais.
Voilà, stigmatiser.
Une mesure, donc c'est ce que dénonce le cirque, hein, que c'est une mesure discriminatoire et stigmatisante, que c'est la violation des libertés individuelles. On l'a fait courte, hein, c'est bien ce qu'on disait.
Ouais, ouais.
Une critique répressive inefficace, parce qu'on voit, et puis on le sait, hein, on est le pays le plus répressif, et c'est celui où on consomme le plus, et dont les jeunes consomment le plus. Et voilà. Et donc, il faut explorer d'autres alternatives. Hein. Donc, nous, on en avait proposé il y a 40 ans de ça.
Bon, peut-être pas 40, mais 30, au moins. 35, presque, bientôt. Mais oui, donc une mesure supplémentaire, une arme supplémentaire insérée dans l'arsenal des mesures pour criminaliser les usagers, ou en tout cas les fliquer partout. Donc voilà, c'est aussi une mesure qui porte atteinte ou à la présomption d'innocence et qui pourrait entraîner des abus de pouvoir de la part des autorités, ce qui rajoute aussi le cirque. Et donc, plutôt que de renforcer la sécurité, cette mesure risque de créer un climat de méfiance, cette tension entre la police et la population, renforcer effectivement, accentuer, je ne sais plus quel mot il faudrait employer. Et que bien sûr, au ministère de l'Intérieur, on ne s'intéresse à aucune autre alternative. Les alternatives progressistes, non, on n'en veut pas au ministère de l'Intérieur, ni même à la présidence, d'ailleurs, j'ai l'impression. Voilà, donc effectivement, nous au cirque, on appelle à explorer des alternatives plus progressistes, du style de celles qui pourraient être menées chez nos voisins, par exemple, pas très loin.
Allemand, maltais, luxembourgeois.
Oui, là, c'est plus. Oui, luxembourgeois, c'est pas loin, c'est vrai. Non, Malte, c'est plus loin, mais.
Mais notre alter ego, l'Allemagne.
Bien, allez, je te propose. J'ai trouvé l'article quand même super sympa. Je te propose de lire l'article de Libé, donc de Luc Levaillant, en fait, qui a publié un article. Dieu, ça fait du bien de lire un article comme ça.
Voilà. Ça s'appelle Pour un état dealer, c'est par Luc Levaillant.
Voilà, alors hormis le titre que je trouve un peu pourri, quand même, son coup de gueule est quand même appréciable. Donc, je vous lis tout ça, hein. Pendant que le président Macron gonfle ses biceps sécuritaires, autant se souvenir que légaliser le cannabis permettrait de mieux assurer la protection des populations. Messieurs du gouvernement, inestimables élus du peuple qui avaient décidé de mener la lutte contre la drogue à grand renfort de barnums intitulés Placenet, je vous demande de vous arrêter. Votre tintamarre sent à plein nez l'esbrouffe et la galéjade. Ce ne sont que coups de menton et postures martiales à destination des gogos. La seule manière durable de limiter le narcotrafic est que l'État assure la commercialisation du cannabis tout en médicalisant l'accès aux autres substances vénéneuses. L'autre jour à Marseille, une triplette infernale a joué les gros bras. Il y avait là le président en personne. Batling Manu a la faiblesse de penser que sa présence galvanise les troupes. Le voilà donc qui se réinvente en adjudant, prêt à brailler des « en avant les petits gars !» aux renacleurs comme aux envapés. À la Castellane, il plastronnait bras croisés devant les préfets et autres sommités locales en grand uniforme. C'est comme si ses récents biceps immortalisés par sa photographe particulière devaient faire craquer les coutures du costume bleu et qu'il n'avait quitté qu'à regret ses gants de boxe. On entendait presque grincer sa mâchoire tel Mike Tyson prêt à dévorer l'oreille du pire revendeur ricaneur comme du moindre sous-commandant peu allant. Habitué à parader devant les tableaux de chasse de saisies forcément records, Gérald Darmanin n'a pas traîné à monter en gamme. Le ministre de l'Intérieur songe, paraît-il, à obliger les passants à ouvrir le bec pour satisfaire un test salivaire capable de détecter les mauvaises haleines chargées de THC. Éric Dupond-Moretti, que l'on croyait moins basique, se lance lui aussi dans la chasse aux consommateurs. L'argument culpabilisateur est le suivant. Sans demande, il n'y aurait pas d'offre. Malin ! Donc les fumeurs de joint seraient responsables de la guerre des gangs et leur pétard du samedi aurait, selon l'ancien avocat, le goût du sang séché sur le trottoir. Il est vrai que le marché prospère, que les types de stupéfiants se multiplient, que les villes moyennes sont touchées. Certains quartiers deviennent des territoires perdus de la République où les trafiquants font la loi et où les FDP, acronyme qui fleurit sur les murs, à traduire comme il vous plaira par force de police ou fils de pute, ne peuvent plus glisser un orteil sans se faire canarder. Mais il est étonnant de voir que l'unique réponse martelée par le pouvoir est la répression bête et méchante. Si cela donnait des résultats, je me laisserais volontiers convaincre, tant je comprends la fatigue des riverains et la saturation des édiles municipaux. Mais le désastre s'enquiste. Un matin, on fait place nette. Illico, la bourse aux échanges migre, les sites de vente se numérisent. Quelques jours après, les guetteurs repointent leurs museaux avant que les fourgues déploient leurs étals. C'est comme si chacun faisait son cinéma et que rien n'avait bougé. Le topo est identique. En 1930, en 1970, en 2020, de Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo à French Connection avec Gene Hackman, avant de finir par Bac Nord avec François Civil et Gilles Lelouch. Lutte des clans pour le contrôle des territoires, bisbille entre services de police, indique à cajoler et infiltrer à protéger. Sans oublier le frisson du client qui se croit initié quand il est juste méprisé et qui se donne l'illusion de frauder avec l'ordre bourgeois quand il conforte un système ultra-libéral. Devant la vacuité des postures militaires, il serait temps que la France tente autre chose. À l'égal de différents pays de par le monde. La prohibition génère le crime, décime les clans et surpeuple les prisons. Au contraire de la dépénalisation qui ravirait les dealers, la légalisation représente une solution sanitaire et fiscale intéressante. Elle permet de garantir la qualité des produits, de produire local et de récolter des taxes afin de mener des campagnes de prévention, tant les humains ont le chic pour conjuguer plaisir et autodestruction. Cette approche n'a rien d'une solution miracle, mais aiderait à soulager les forces de l'ordre et à pacifier des enclaves submergées par une délinquance endémique. Que le RN et la droite soutiennent les interdits, il n'y a là rien que de très normal. Que le macronisme versatile veuille répondre à la demande d'autorité qui bouchonne sur les flots d'anxiété des populations, on avait compris. Mais que la gauche soit incapable de pousser une initiative progressiste de ce genre, cela me désole. Depuis Hollande, le PS a toujours été prudent, sinon défaillant en ces matières. Les insoumis et les écolos, eux, semblaient partants pour repenser la distribution du cannabis. Aujourd'hui, ils sont devenus inaudibles. C'est comme si la droitisation générale avait rendu inexprimable ce genre de proposition de bonne volonté. Voilà. Luc Levaillant dans Libération le 25 mars dernier. Et c'est pareil, hein, y a des trucs que je trouve qui manquent dans cet article, j'aurais pu dire certaines choses, mais globalement, je trouve que la tribune est bonne, quoi, est sympa. Et que surtout, ça fait du bien de lire quand même qu'il y en a qui se rendent compte que les gesticulations de Macron et de Darmanin, voilà, ne sont que des gesticulations, quoi. Enfin, c'est quand même fou.
Et dans ces gesticulations, alors j'ai pas vu l'article, j'ai vu juste le titre dans le Progrès de samedi, si je me trompe pas, ou en tout cas c'était il y a pas longtemps. Justement, il fait tellement de com qu'il a dévoilé trois villes où ils allaient intervenir, dont Strasbourg. Et l'intervention a eu lieu le lendemain, donc il y a eu quelques personnes qui
ont pu se barrer avant, quoi.
Ou qui sont pas venus.
Alors, il y a deux articles que j'ai pas mis dans la revue de presse d'aujourd'hui, mais si tu veux, je peux m'en occuper pour la semaine prochaine. En tout cas, il y avait deux articles du Monde, et notamment un qui expliquait en fait que comment fonctionnaient les enquêtes de police et que ces opérations place nette mises en place sont en fait contre-productives et en tout cas ne permettent pas de mener à bien des opérations de saisie de grande envergure. Ça ne fonctionne pas. Il y avait un autre article qui montrait que le prix des drogues était stable en France depuis plusieurs années et que, en gros, les mesures mises en place de pilonnage des fours, de lutte contre la drogue et tout, ça montre bien que ça n'a pas d'effet sur le prix. Donc, voilà. Le prix, en fait, c'est une donnée très importante sur un marché économique. Donc, c'est très simple. Si les actions policières ont un impact, il y a une raréfaction des produits, une augmentation du prix. Voilà. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Voire même, dans l'article, ils disent que le plus grave, c'est que le prix de l'héroïne baisse. Donc, Monsieur Darmanin, qui nous dit que ses actions fonctionnent, qu'elles donnent des résultats, nous raconte des histoires. Ce n'est pas vrai.
Mais surtout sur les drogues dangereuses.
Voilà. Alors, on continue.
Plus dangereuses. Voilà. Enfin, allez, on passe à cette beauté quand même. C'est pas un poisson d'avril.
Ah, l'Allemagne, tu veux dire?
L'Allemagne, elle a légalisé. Non, voilà. Mais c'est vrai, donc, quoi. C'est fait. Cool quand même.
C'est fait depuis lundi dernier, exactement. Ça, ça fait une semaine. Voilà, parce qu'on est le 8, donc c'était lundi dernier. Et c'est pas un poisson d'avril. Voilà. Et on a vu beaucoup d'Allemands, effectivement, se rassembler sur les grandes places de Berlin, notamment, qui avaient l'air bien contents et qui célébraient donc cette victoire, qui est une conquête sociale.
Voilà. Donc c'est la présidente du Bundesrat, Manuela Schwesig, qui a signé la loi. Normalement, c'est le président fédéral allemand, Franz Walker Steinmeier, qui signe, mais là, il est en vacances. Donc, et donc c'est elle qui l'a fait. C'était à la fin d'un long processus législatif. Donc, depuis le 1er avril, les adultes peuvent posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis et cultiver jusqu'à 3 plants pour leur usage personnel.
Alors, juste une toute petite parenthèse minuscule, un long processus législatif comme ça en France, moi j'en veux tous les jours. Franchement, pour moi, c'est ils ont fait ça hyper vite. Voilà, parenthèse fermée, je te laisse continuer.
La deuxième chose, donc, à partir du 1er juillet, donc, les adultes pourront adhérer à des clubs sociaux où ils pourront acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis avec un plafond de 50 grammes par mois. Ce plafond de 30 grammes est de 30 grammes pour les membres de l'âge de moins de 21 ans. Voilà, les clubs sociaux ne peuvent pas être situés à proximité d'écoles ou de terrains de jeu et chaque juridiction ne pourra avoir qu'un club par tranche de 6000 habitants. Les clubs seront limités à 500 membres. Voilà, ils auront besoin d'un permis de social club qui sera valable jusqu'à 7 ans. Voilà, les impacts. Une évaluation détaillée des effets de la légalisation sur la sécurité des jeunes sera menée donc les 18 mois.
C'est très bien. Ils vont évaluer un peu, au jour le jour, mais progressivement, les impacts, comme ils font au Canada, en fait.
Oui, comme ils vont faire en Suisse. Hein, on va en parler dans pas longtemps.
Zurich, oui.
Donc ils analysent les prochaines étapes. Donc la loi de légalisation va rentrer, mais alors, ils savent pas exactement comment introduire les programmes pilotes pour les ventes commerciales. Donc ils vont faire des tests dans certaines villes. Et puis selon comment ça fonctionne, ils vont explorer différents modèles de distribution et de commercialisation avant de choisir celui qui leur semble le plus approprié.
Oui.
Et voilà, donc ils rejoignent évidemment Malte et le Luxembourg, ainsi que d'autres pays comme le Pays-Bas, le Portugal qui a dépénalisé depuis 2021, l'Espagne,
2001,
qui ont des positions plus tolérantes envers le cannabis que nous-mêmes.
Donc ce qui est pas mal maintenant, si jamais ça pouvait arriver à l'esprit d'un politicien français, il y a quand même plein d'endroits où il y a des choses qui ont été mises en place et dont on peut s'inspirer. Donc là, les Allemands, je dirais pas qu'ils ont qu'à piocher ce qui s'est fait ailleurs, mais ils peuvent en tout cas s'y intéresser. Donc ça, c'est pas mal.
Très bon article, celui-là. On voit un peu ce qui se passe Pays-Bas, Luxembourg... Et les Nations Unies aussi, où, alors là, l'OICS, c'est assez marrant parce qu'ils
sont... On sait bien que l'OICS n'est pas spécialement favorable à des réformes, ça, bon...
Oui, tout à fait, donc elle reste sur sa position, c'est une légalisation, ça a des fins récréatives, est en violation des traités internationaux sur la drogue. Mais ils ont aussi reconnu que les efforts de certains pays, dont l'Allemagne, pour réglementer le cannabis de manière responsable, en tenant compte des objectifs de santé publique et de sécurité, c'est compliqué, mais d'un autre côté, c'est quand même un accord tacite.
Voilà, allez, on continue avec cet article du Monde. Je te propose qu'on se penche un peu dessus, qui est un article qui est... Je trouve très intéressant, même s'il donne des exemples à des moments, je trouve qu'ils sont pas terribles. Mais bon, le fond de l'article est quand même plutôt bon. C'est un article des décodeurs du Monde, où il y a plusieurs journalistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, oui, qui donc ont participé à la rédaction de cet article, légalisation des pénalisations, comment les législations du cannabis s'assouplissent à travers le monde. Et là aussi, c'est un article qui fait du bien, puisqu'il met vraiment en perspective la situation de la France par rapport aux autres pays du monde. Et c'est là qu'on voit que on est très isolé en Europe, même si globalement, à l'échelle mondiale, il n'y a quand même que 4% de la population mondiale qui vit sur un territoire où il y a eu une réforme des politiques sur le cannabis, en tout cas. Donc c'est quand même pas beaucoup, mais c'était 0% il y a si longtemps. Ici,
avec 5 pays, ils font 4%, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal. Alors,
Il y a l'Uruguay, il y a le Canada, ça c'est sûr.
Bah, le Canada,
il y a l'Allemagne,
c'est pas un pays
puisque c'est le 5e, et entre les deux, à part Malte et Luxembourg, j'en vois pas.
Bah, après, là, l'Allemagne est devenue le pays le plus peuplé du monde où on a légalisé.
Oui,
parce que il y a plus de monde, il y a plus d'habitants en Allemagne qu'au Canada. Canada, qui est un très grand pays, très peu peuplé par rapport à sa surface. Donc cet article est quand même vraiment pas mal pour ça. Donc, il retrace un peu l'histoire de la prohibition très très vite, qui serait en train de partir en fumée, hein, puisqu'après le Canada et la Californie en 2018, l'Allemagne, donc premier pays. Est devenu le 1er avril le territoire donc le plus peuplé au monde à légaliser la consommation. Voilà. Craquant encore un peu plus le consensus international qui existait sur cette question. Donc depuis plus d'un siècle, effectivement. Depuis 1906, je crois bien, c'est à peu près ça. 1906 ou 1907, la première loi. Voilà. Donc, approche qualifiée d'encore un peu farfelue par les journalistes, là, quand l'Uruguay a ouvert la voie en 2013. En légalisant de façon encadrée donc la culture et la consommation de la plante. Donc si cette drogue douce se consomme depuis des siècles, voire des millénaires plutôt, sous différentes formes pour des usages récréatifs ou thérapeutiques, elle était prohibée juste dans la quasi-totalité des pays du monde, mais contrairement à une idée très répandue, cet état de fait était relativement récent dans l'histoire humaine. Car l'une des premières lois de prohibition a été votée en Égypte en 1868, mais la plupart des pays occidentaux n'ont suivi que dans les années 1920 ou 1930. Il faut dire comme ça maintenant, parce que si je dis les années 20, on va croire 2020. Alors, donc c'était au siècle dernier. Et la prohibition, en fait, elle s'est vraiment mondialisée qu'après-guerre, après 1961, et le traité unique sur les stupéfiants, à l'initiative d'un, on sait très bien qui, Harry Jacob Anslinger, qui avait fini par convaincre les Nations Unies de mettre en place une prohibition internationale en 61. Et d'ailleurs, Anslinger a même considéré que la disposition qui avait été votée était bien trop molle par rapport à ce qu'il souhaitait. Ça c'est encore un autre débat, une autre histoire. On pourrait faire Cannabis Circus pendant 5 heures, non-stop. Pour vous dire tout ce qu'on pourrait vous dire. Mais bon, on va pas pouvoir. Au tournant du 21e siècle, constat d'échec à l'égard des politiques répressives. Et là, les choses sont en train... les choses changent à partir du début des années 2000. La plus en plus de pays, en fait, se disent « Bon, si on n'arrive pas à enrayer les trafics et à dissuader les consommateurs, acceptons cette consommation pour mieux l'appréhender et améliorer la prévention. » Mais donc je continue, de plus en plus de gouvernements tentent de changer leur politique en pénalisant de moins en moins fortement la simple consommation, donc peine moins lourde, amende, travaux d'intérêt généraux. On nous parle aussi un petit peu de l'arrivée du cannabis thérapeutique. Si tu veux enchaîner et dire des trucs, vas-y.
Je t'en prie.
Oui, voilà, c'était sur le cannabis thérapeutique que je voulais arriver. Et donc, là, ils reprennent un peu, un cours historique dans cet article en nous parlant de William Brooke O'Shaughnessy, qui était un médecin irlandais du 19e siècle. Qui avait lui aussi s'était intéressé à la question thérapeutique du cannabis. Et là, il nous cite des exemples comme l'utilisation de l'herbe pour lutter contre l'asthme ou une lutte antispasmodique pour lutter contre les troubles liés à la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, utilisé aussi comme vasodilatateur contre le glaucome, Voilà, il y a plein d'autres aspects thérapeutiques là qu'ils auraient pu nous citer en exemple. Bon, c'est dommage. Ça peut être prescrit pour des personnes qui ont des pertes d'appétit, des personnes qui souffrent de spasticité, de contractures. Bref, il y a plein d'applications. Maladie de Crohn également, c'est pas dit là. Syndrome de Dravet, qui est une forme d'épilepsie particulièrement sévère. Alors ensuite, où est-ce qu'on peut trouver du cannabis thérapeutique dans les pays qui ont avancé sur la question? Alors par exemple, on nous parle de cannabis vendu en pharmacie sans ordonnance en Macédoine du Nord, cultivé par l'armée en Italie, on a vu, et aussi accessible en pharmacie en Italie, hein, de plus en plus. Accessible sur prescription seulement en Argentine et uniquement sous forme de spray au Brésil. En Hongrie, certains médicaments à base de cannabis sont aussi accessibles aux patients atteints de sclérose en plaques, mais seulement après une validation au cas par cas des autorités. Donc voilà, la Hongrie, en gros, moi je dirais que c'est comme en France. C'est pas très différent. Ouais. Et donc en France? Eh ben en France, bon, on en a parlé plein de fois à l'antenne.
L'Hexagone, souvent cité dans le comme le plus gros consommateur d'Europe de cannabis, en particulier dans sa version récréative, fait figure de quasi-exception sur le continent. Aucun gouvernement français n'a jamais avancé vers la dépénalisation ou la légalisation. Même si la majorité macroniste a assoupli en 2020 la réponse pénale pour la consommation simple de cannabis, désormais punie d'une amende forfaitaire, le ministre de l'Intérieur assume la logique répressive. Donc Darmanin a annoncé vouloir taper la politique de l'offre autant que celle de la demande. Et donc là, il veut même étendre ce dont on a parlé tout à l'heure, les tests salivaires sur la voie publique.
Voilà. Mais comment on fait quand on est malade et qu'on veut du cannabis thérapeutique? Eh ben, c'est compliqué parce que le sativex, c'est quand même a priori accessible aujourd'hui. Sauf que s'il a bien reçu une autorisation de mise sur le marché il y a 10 ans, c'était en 2014, c'est que ça commence à remonter. Hein, il n'est pas commercialisé en faute d'un accord qui n'a pas été trouvé entre son fabricant Almirol, voilà, et l'État français. Donc globalement, vous pouvez pas en avoir. Voilà. Au Marinol maintenant. Quant au Marinol, alors il est accessible sur dérogation individuelle depuis le début des années 2000. Alors là, c'est pareil. Il faut une autorisation spéciale d'utilisation. Je me rappelle plus exactement l'acronyme. En gros, c'est quasi impossible d'en avoir. Je me rappelle, il y a quelques années, on en avait parlé et je crois qu'il y avait eu 3 personnes dans l'année qui avaient eu l'autorisation pour se voir prescrire. C'était moins de 5. C'était vraiment très 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 peu. Donc c'est une situation qui est en fait très critiquée, régulièrement critiquée, déjà par nous, hein, par les associations, mais aussi par des professionnels de santé, et ça de plus en plus. Hein. Et ce qui fait que la France commence à faire exception en Europe, où en fait, depuis le début des années 2000, donc depuis pratiquement 25 ans, les législations se sont fortement assouplies. Et je finirai par dire, là, ce qui n'est pas dans l'article, mais que récemment, le pays qui a avancé sur le thérapeutique, c'est l'Ukraine. Voilà, c'est l'Ukraine. Et ça, on se garde bien d'en parler aux infos de ce que l'Ukraine a décidé en matière de cannabis thérapeutique. Voilà, pour cet article intéressant. Tous ces articles dont on vous parle, hein, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du Cirque Lyon. Voilà.
Hexagone, ouais. C'est pas sûr que le roi des contes soit pas français.
Allez, un peu de musique, à tout de suite.
Now wait a minute. You know my baby, she won't let me in. I've got a few pennies. I'm gonna buy myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, listen,
worked so hard all day long. Everything I try to do seemed to always turn out wrong. That's why I wanna stop by on my way home and say, let me tell you one more thing. Ain't no harm to have a little taste, but don't lose your cool and stop messing up the man's place. Ain't no harm to take a little nip, but don't you fall down. What's your lip? No, no. Oh, oh, no, no. I think everybody ought to come on and go with me.
C'était Ray Charles. Non, oui, c'était Ray Charles. Charles.
Ray Charles.
Let's go get stone. Let's go get stone. Let's go get stone. Il y a un truc qui marche pas. On n'entend pas trop. On y est pas. Et toi, si on t'entend.
Je sais, oui, on m'entend bien, mais toi, tu as un problème avec ton bout de ton curseur pour ton micro, je pense. Il y a un faux contact ou je sais pas.
Ben...
Voilà, on t'entend bien, très bien. Allez,
ben,
on continue,
on est
terminé.
On embraye donc avec le Canada et la légalisation du cannabis. Aucune sanction de l'ONU. Bon, on l'a déjà abordé un petit peu, je ne sais pas si
oui,
on détaille.
Oui, très vite. Bah, en fait, c'est un petit article qui reprend en fait les propos de Justin Trudeau, justement dans le documentaire réalisé par Kassovitz, qui a été diffusé donc mardi dernier sur la 5e en prime time. Et en fait, dans cette interview, à un moment, bah, Trudeau, il dit voilà, quand on a voulu mettre en place cette réforme, on nous a dit faites attention, vous allez subir des sanctions de l'ONU, en gros, c'est risqué et tout. Et Justin Trudeau, il dit juste bah, en fait, il ne s'est rien passé. Voilà. On n'a pas été sanctionné par l'ONU, ni par l'OICS, hein, l'organe international de contrôle des stupéfiants dont on parlait juste avant. Pas de pression, pas de sanctions mises en place. Mais en même temps, c'est assez normal, dans le sens où même au sein de l'ONU, on en parle assez régulièrement, il y a des forces actuellement qui exigent, enfin qui voudraient une sortie définitive de la prohibition. Donc je pense qu'au sein de l'ONU, ils sont aussi assez divisés quant à la politique à mener sur cette question. Donc il n'y a plus aujourd'hui un consensus général sur oui, il faut mener une prohibition et une répression encore pendant des décennies. De plus en plus, il y en a qui veulent changer de politique. On l'a bien vu, il y a des pays qui ont légalisé. Voilà. Il y en a même un qui est un frontalier de la France. Donc,
depuis 4 jours.
Depuis une semaine. Voilà, donc voilà, Trudeau, il explique qu'on lui a rien fait. Voilà, tout simplement. Et que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'en fait, d'autres pays pourraient le faire.
Voilà, quelques pressions de la DEA, mais c'est tout. Mais même pas grand-chose. Alors là, maintenant que c'est Biden, il s'en fout de ça. Bah, il est plutôt en train de légaliser plus ou moins dans son pays, quand même.
Bah, il y a quand même un conflit entre la DEA et le Congrès, le gouvernement Biden. Parce que, rappelle-toi, il y a quelques semaines, on en a parlé, la DEA a dit, c'est nous qui aurons le dernier mot sur la déclassification du cannabis. Ils ont dit ça, c'est officiel, ils ont dit, nous aurons le dernier mot. Donc, s'il faut pas qu'ils aient le dernier mot, c'est à un moment, il faut qu'il y ait une décision politique qui soit votée par Biden, par les, je sais pas.
Ouais, c'est un état dans l'état, c'est de la
donc,
folie.
Non, il y a un conflit au sein de l'administration américaine sur ce sujet. Mais on voit bien que ça conditionne tout le reste, hein, au niveau des autorisations pour les transactions bancaires. Bon. Alors cette histoire d'ONU comme quoi il pourrait y avoir des pressions, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu de la part de politiques français.
Oui, c'était une de nos craintes, a priori. D'ailleurs, c'est une crainte de l'Allemagne aussi par rapport donc aux traités internationaux et aux traités européens. Parce que vous faites attention à cette double supranationale.
Double contrainte ou double. Voilà. Ouais. Alors. Les Allemands jusqu'à présent n'ont pas été sanctionnés. Et alors, par contre, pour la suite de la mise en place de la légalisation, pour la commercialisation, hein, qui serait l'étape suivante, les Allemands ont plusieurs fois dit qu'ils attendaient, en gros, de voir ce que dirait la Commission européenne. Voilà. Mmh. Donc, pour l'instant, pour les clubs, les cannabis social clubs en Allemagne, ça va, l'autoproduction, quelques plans chez soi. Mais ouvrir à la commercialisation, bon, pour l'instant, on voit que c'est pas le cas. Et en gros, il y a un dialogue entre les Allemands et la Commission européenne sur ce sujet. Voilà. Mais il y a un dialogue, au moins. C'est bien.
D'une certaine façon, moi, par rapport à mon rêve du cultiver bio à côté de chez soi, je pense que ce genre de, avec les cannabis social club, on répond aux productions locales. Au circuit court. Voilà. Donc on est déjà pas mal. Mm-hmm. Voilà. C'était juste mon avis.
Oui.
Et je le partage.
Très bien. Bah après, les cannabis social club, c'est aussi une forme de circuit court.
Tout à fait, c'est exactement ce que je dis.
Ouais, d'accord, ok. Alors là, par exemple, comment les Allemands pourraient mettre en place aussi une forme de circuit court par un circuit commercial? De toute façon, c'est possible. Hein.
Ben, c'est là qu'on commence à être comme au Canada avec des super grands trucs. Je sais pas
ah ben là, oui, c'est
autre chose. On a vu les cultures là-bas, les bâtiments, les serres.
Ben, c'est des usines, quoi.
Des usines de culture. De clones, de clonage et de culture.
Bah même, oui.
Alors là, c'est pas des animaux, c'est des petits plants de cannabis. Et ils éclosent comme ça.
Qui deviennent grands après. Mais moi je pense aussi aux malades par exemple. Il faut des produits très standardisés, très spécifiques, avec tel dosage, un effet d'entourage bien particulier, un dosage.
C'est ce qui est difficile avec l'artisanat en effet.
Voilà, donc là je pense que. Bon. Après, je ne sais pas comment ils fabriquent le Sativex, mais à mon avis, ils passent par des systèmes très industrialisés pour avoir un produit parfaitement dosé et équilibré. Le rapport THC-CBD, voilà. Je pense qu'ils ne passent pas par une culture artisanale. Allez, on finit là sur le Canada ou on va en Suisse, parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Là,
ouais, en fin de compte, le cas du Canada pourrait servir de référence pour d'autres pays envisageant des réformes similaires en matière de réglementation du cannabis. Voilà, toutefois, les pressions et les préoccupations internationales continueront probablement à façonner ces débats, mettant en évidence la nécessité d'un dialogue et d'une coopération internationale pour aborder les défis complexes posés par les politiques sur les drogues. Mais il y a d'autres défis complexes qu'il faudrait aborder. Allez, la Suisse et Zurichane.
Oui, donc la Suisse qui publie les premières données du programme pilote du cannabis, l'expérimentation sur le cannabis légal.
Mené à Zurich.
Voilà, et globalement, dans cet article, moi j'apprends rien de très intéressant, hormis le fait que c'est ce qu'on avait déjà observé avec d'autres villes, qu'en gros, les participants, il y en a 80,5% qui sont des mecs. Voilà. C'est à peu près l'information principale, il y en a une autre.
Donc 1928 participants au total. Hein.
Voilà, ce qui n'est pas énorme. Moi, j'ai trouvé ça très peu pour une grande ville comme Zurich. Mais en même temps, après, il y a un truc, une information qui délivre là, qui m'a paru assez cohérente, parce que je pense que la plupart des Zurichois amateurs de cannabis, qui par exemple s'autoproduisent, ils vont pas participer à, je suis pas sûr qu'ils aient eu envie de participer à l'expérimentation. Surtout qu'en fait, on apprend aussi que un quart, ce qui est quand même assez important, parce que sur 2000, à peine 2000, un quart des participants présenteraient des signes de troubles liés à la consommation de cannabis. Ce qui souligne l'importance des canaux de distribution réglementés pour atténuer les dommages potentiels. Alors là, c'est pas mal par contre, parce que si effectivement se sont inscrits des personnes qui pouvaient avoir des troubles liés à leur consommation, bah c'est pas mal qu'ils puissent rentrer dans ces programmes, c'est pas mal qu'on puisse les identifier et qu'on puisse les accompagner. Mmh. Et en gros, on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait un infléchissement dans les politiques répressives, il y a des usagers qui viennent en fait et qui demandent de l'aide. Voilà, c'est aussi un peu ça, et je trouve ça c'est quand même bien.
C'est bien ça, c'est aussi un de nos arguments, hein, de dire que justement ceux qui ont vraiment une consommation à risque, eh ben on peut pas les aider parce que
on ne sait pas où ils sont.
Et voilà, donc la distribution réglementée du cannabis peut créer un cadre qui favorise une consommation de cannabis à moindre risque, en particulier les consommateurs de cannabis qui ont une consommation problématique ont un accès plus facile aux services de conseil et de traitement. Voilà, les vendeurs des points de référence ont été spécialement formés au conseil de la prévention, donc ça c'est en Suisse hein, toujours, de sorte qu'il est possible de donner des conseils individuels et ciblés, étant donné que les participants à l'étude achètent toujours leur cannabis auprès de la même source, une relation de confiance plus étroite peut se développer au fil de temps, ce qui permet également d'identifier et de discuter des évolutions problématiques. Voilà, avec ces 2000 personnes, il y a eu 16 500 transactions et 14 kilos.
140 ?
Et 140 kilos vendus. Donc 140 pour 2000 personnes, bon, ça fait quand même un petit peu.
Oui, bien sûr, ouais. Surtout que ça a commencé, alors je me rappelle plus exactement, ça a commencé avant le mois de décembre à Zurich.
Oui, ça doit faire un an, je crois.
On ne met pas la date au départ, bref. Ah, en mars, bah non, ça fait un an, mars 2023, oui, voilà. Donc 140 kilos en un an, c'est pas énormissime non plus, hein. Pour 2000 personnes, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre d'intéressant? Qu'au-delà des tendances de consommation, les initiatives pilotes s'attachent à comprendre les ramifications sociales et économiques du cannabis légal. Voilà. Et l'étude à venir, parce qu'il y en a une autre dans le canton de Zurich, menée par le KOF Swiss Economic Institute de l'Université de Zurich, visera, elle, à étudier les effets multiples de la légalisation du cannabis. Donc des résultats sanitaires à l'éducation publique et à la stimulation économique. Cette évaluation complète cherche à démêler l'interaction complexe entre le cannabis légal et la dynamique sociétale. Et tout ça, bien sûr, sous égide de l'Office fédéral de la santé publique, qui chapeaute tout ça depuis plusieurs années et qui veut comprendre les effets globaux de la réglementation des ventes de cannabis. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On continue.
Ouais. Continuons.
On part, on traverse l'Atlantique, on va à New York. À New York.
Oui, j'étais perdu dans les calculs.
Tu calculais 140 kilos pour 2000 participants.
2000 personnes, ouais, ça fait 70 grammes par an par personne. Donc ça fait pas beaucoup quand même, hein. Ça fait 5 grammes par mois, faut même pas 1 gramme par semaine, quoi.
Oui, donc oui, finalement... Pas
1 gramme par semaine.
Ouais. En fait, on calcule pour un système légal pour tant de personnes, on s'aperçoit que les quantités sont pas tellement importantes, en fait.
Oui, tout à fait.
On s'était déjà fait la réflexion il y a quelques temps. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois que cette histoire d'interdiction, en fait, ça génère presque une surproduction de marchandises qui... Bref. Pardon. Allez, donc, on part vite fait aux États-Unis, bah, ça va être très très vite fait, il nous reste 30 secondes, où un juge à New York, vous savez, New York, c'est cette ville, grande ville américaine, où depuis à peu près un an et demi aussi, il y a eu une forte poussée pour la légalisation, en tout cas à New York, et c'est ce qui s'est fait, il y a des dispensaires, enfin des boutiques qui ont ouvert. Il y en a plein qui voudraient ouvrir, il y a une liste d'attente pour se faire officialiser. Ça crée des problèmes d'ailleurs, parce qu'il y a plein de boutiques qui sont pas du tout officielles mais qui ont quand même le droit d'ouvrir, ou qui sont pas... Enfin bon, c'est assez compliqué. Et la semaine dernière, il y a eu un juge de la Cour suprême du comté d'Albany qui a voté quand même quelques lois assez embêtantes pour le coin, pour la ville. C'est l'IFLI qui est un organisme, j'aurais du mal à vous dire qui est l'IFLI, mais c'est une organisation qui milite aussi pour la légalisation et qui vend aussi des graines au niveau médical. Donc l'IFLI contestait des restrictions publicitaires qui étaient imposées par l'Office of Cannabis Management. Et donc le juge Bryant a déclaré que, enfin, en fait, a rendu une décision qui expliquait que la forme de légalisation à New York était inconstitutionnelle, qu'elle n'était pas justifiée, et donc inconstitutionnellement vague. Et donc ça a créé un peu la panique, enfin au moins la confusion au sein de l'industrie, où tout le monde s'est dit « Oh là là, c'est reprohibé, c'est foutu, oh là là !» Et alors qu'en fait, c'est quand même pas tout à fait ça qui s'est passé, puisque quand même cette décision a annoncé une annulation généralisée des cadres réglementaires pour le cannabis pour les adultes à New York. Et en fait, c'était juste une interprétation erronée, parce que la décision du juge a été modifiée par la suite, pour préciser qu'elle visait spécifiquement uniquement les règles régissant les plateformes tierces comme l'IFLI. Voilà. Donc pas de panique. Enfin là, ça c'est tout s'est calmé visiblement. Ouais. Mais ils sont tous comme ça hein, là-bas. Ils ont peur. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas il y a quand même des juristes qui suivent l'affaire, parce que il y a quand même toujours beaucoup de critiques qui sont émises par rapport à cette décision, et qu'il y en a qui veulent l'interrompre. Voilà. Allez, on n'ira pas jusqu'au bout, et c'est Chasseurs de Son, et la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir.